Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est midi 20. Un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, suspecté de collecte de renseignements. On est avec vous, général Bruno Clermont. Bonjour mon général.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous, général de corps aérien. On a besoin de votre expertise, mon général. Qu'est-ce qu'on sait de ce type de ballon? Quand on parle d'un ballon espion, qu'est-ce que c'est exactement?
D'abord, c'est une information qui a été fournie par le Pentagone, ce qui est assez rare parce qu'en général, il reste plutôt discret sur ces affaires-là. Visiblement, ce n'est pas la première fois qu'il y a un survol des États-Unis par ce type d'engin. La différence, c'est que ce survol est très prolongé et donc il a été identifié par un certain nombre de spotters à partir des États-Unis. Donc effectivement, il vaut mieux donner les explications au public de quoi il s'agit.
Identifié par les spotters, je vous coupe une seconde. Un spotter, c'est des photographes amateurs, quoi.
Hein, ce sont en quelque sorte des passionnés d'espace qui ont des télescopes et qui regardent tout ce qui se passe dans le ciel. Donc effectivement, on a en plus sur Internet des images de ce ballon dont on voit que le Pentagone a reconnu qu'il faisait à peu près le diamètre de 3 autobus, c'est-à-dire entre 30 et 50 mètres, et qui vraisemblablement évolue dans une zone très particulière, qui est la zone au-dessus du vol des avions commerciaux et des avions militaires, c'est-à-dire au-dessus de 15 et de 20 km. Et c'est dans cette zone, effectivement, il y a très peu d'activité. Et c'est réservé à des engins très spéciaux comme ces ballons, dont les caractéristiques techniques permettent d'évoluer au-dessus de 20 km, entre 20 et 50 km. La particularité, c'est que c'est rare et que celui-ci, non seulement a été identifié, mais il est suivi d'un deuxième qui a été annoncé par le Canada, puisque ces engins, ils partent de Chine, ils traversent la Russie, ils passent par l'Arctique, ensuite ils passent au-dessus de l'Alaska, ils traversent le Canada et ils vont sur les États-Unis. Donc la particularité de celui-ci, c'est que il reste longtemps. En fait, ça fait sans doute plusieurs jours qu'il est au-dessus des États-Unis et plusieurs jours qu'il est guidé, il est piloté à distance et qu'il surveille, il fait une trajectoire qui monte, qu'il survole des sites sensibles des États-Unis qui sont essentiellement des installations militaires américaines.
Oui. Alors, à quoi ça sert, justement? Voilà, donc ça survole des installations militaires américaines, mais... Ça aspire des données. Qu'est-ce que ça fait? Ça photographie?
D'un point de vue technique, c'est assez paradoxal parce que ça va faire de la surveillance, de la reconnaissance. Oui. Ça peut prendre des photographies, effectivement, de sites sensibles, mais rien de ce que puissent faire également des satellites. Et vous savez que les satellites, les Chinois, les Russes, etc., on a des dizaines qui tournent autour de la Terre et qui photographient à peu près tout ce qui bouge. Donc on est plutôt dans une espèce de démonstration entre la démonstration de capacité des Chinois, parce que cette capacité, pas beaucoup de pays ne la mettent en œuvre, et puis également une forme de provocation qui est un signal politique adressé aux Américains qui leur dit, écoutez, nous, on est capable de survoler votre espace aérien. Nous aussi, on a des capacités de nocivité aux militaires importantes.
On va parler du contexte géopolitique, mais déjà, vous-même, vous êtes pilote de chasse. Si un tel ballon survolait la France, est-ce que l'aviation française de chasse, l'armée, irait lui tirer dessus et pourquoi les Américains ne lui tirent pas dessus?
Alors, les Américains ont les capacités, comme les Français ont les capacités d'abattre ce type de ballon. Vous faites décoller un Rafale qui sont en alerte en permanence au sud de la France, qui décolle en quelques minutes. Il va monter à 15 km d'altitude, qui est le plafond des avions de chasse occidentaux, parce qu'au-dessus, c'est compliqué, il n'y a plus beaucoup d'air, donc les avions ne peuvent plus voler. Et là, à partir de cette altitude, vous tirez un missile qui, lui, va pouvoir rejoindre l'objectif, même si l'objectif est à 10 ou 15 km au-dessus de lui. Donc, on peut effectivement neutraliser ce type de ballon.
Ça, on sait faire, oui.
On sait faire, mais en fait, le problème ne s'est jamais posé parce que cette situation est totalement exceptionnelle. Mmh. Il y a vraiment dans la tranche entre 20 km et 100 km, qui est la tranche dans laquelle, l'exosphérique dans laquelle on a les engins spatiaux, dans lequel il y a aussi des avions qui volent dès à présent. Il y a des avions spatiaux qui volent au-dessus de 100 km. Ils ne sont pas nombreux, mais les Américains en mettent en œuvre. Là, écoutez, il n'y a pas véritablement de réglementation parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent. On n'a pas eu à aller traiter des objets qui étaient dans cette tranche d'altitude. Oui. Mais néanmoins, 20 km, ça appartient à la souveraineté de l'espace aérien des Américains qui peuvent donc y faire ce qu'ils veulent. Comme par exemple l'abattre.
L'espace aérien d'un pays s'arrête à 20 km au-dessus du sol?
Non, l'espace aérien d'un pays aujourd'hui, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on peut opérer entre 0 et 15, c'est là où se déroule l'activité aérienne, donc c'est naturel, on est prêt, on a les armements. Oui. Ensuite, au-dessus de 100 km, c'est l'espace, là, il n'y a plus de règles. Et entre les deux, il y a une zone grise qui est entre 20 km et 100 km, zone grise pour laquelle on ne s'est jamais posé la question parce qu'il ne s'y passait rien.
Ah oui.
Donc là, on se rend compte que la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, comme par exemple des missiles hypersoniques, des missiles de longue portée qui vont utiliser cet espace aérien. Donc la question de la souveraineté se pose dans cet espace. Et les Américains, dans ce cas-là, ont les moyens d'abattre ce ballon. Ils ne le font pas pour une raison qui a été annoncée officiellement. Je pense qu'évidemment, le risque de débris est important parce qu'il fait plusieurs tonnes et ces débris vont tomber sur le territoire des États-Unis. Mais également, abattre un ballon officiellement chinois au-dessus des États-Unis, ça ressemble quand même à un acte de guerre et je pense que c'est dans l'intérêt de personne de déclencher une guerre avec ce type d'activité.
Alors, vous le disiez à l'instant, le contexte est particulier, hein, le contexte diplomatique est particulier. Les Chinois et les Américains sont de plus en plus en opposition. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain, se rend dans deux jours en Chine.
Il y a effectivement plusieurs sujets de tension entre les États-Unis et la Chine. Vous savez que la Chine a décidé, à annoncer officiellement, qu'elle voulait détrôner les États-Unis de sa place de première puissance du monde à un horizon qui est fixé, et cet horizon c'est 2049, hein, les 100 ans du Parti communiste chinois. Donc là, il y a une montée en puissance de la Chine qui provoque les États-Unis, et donc on a des sujets de friction. Le premier, par exemple, c'est l'Ukraine, dans laquelle la Chine soutient idéologiquement la Russie, mais également économiquement la Russie, contre donc les intérêts occidentaux. Et puis, évidemment, le sujet fondamental, c'est la tension qui est en train de se créer autour de l'île de Taïwan, que les Chinois ont bien l'intention d'envahir. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent et qui provoque donc des tensions très importantes d'un point de vue militaire dans l'ensemble du monde, parce que c'est un sujet qui concerne l'ensemble du monde, là, l'éventuelle attaque de la Chine sur Taïwan.
Donc les Chinois viennent dire, viennent faire un petit salut, c'est un message diplomatique envoyé aux Américains. D'ailleurs, ça arrive souvent, parfois il y a des avions de chasse russes qui frôlent nos frontières.
Alors, en ce qui concerne les démonstrations de puissance, par exemple, entre la Russie et l'OTAN, on va le remettre, par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Oui.
Jusqu'à présent, toutes les confrontations, aucune confrontation n'a été une véritable provocation. C'est-à-dire que l'ensemble des participants, belligérants directs ou indirects, font très attention à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, à ce qu'il n'y ait pas de provocation qui puisse déclencher une attaque, la destruction d'un bateau, la destruction d'un avion. Donc on est toujours à la limite de la provocation de manière à ne pas passer une marche qui serait le déclenchement des hostilités entre, on va dire, globalement, les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc on est vraiment sur une ligne de crête très sensible. Et là, on est un peu dans ce scénario-là, dans lequel les Chinois utilisent cette espèce de zone grise qui est entre 20 km et 100 km pour mener une activité qui est contraire, évidemment, aux intérêts des États-Unis.
Le général Bruno Clermont dans Europe Midi. Merci beaucoup, mon général. Merci pour votre expertise. Comme d'habitude, 12h28. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du prix d'une consultation chez le médecin. La Sécurité sociale propose une toute petite augmentation. Les médecins ne sont pas contents. On en parle avec vous et avec Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France. À tout de suite.